Xavier Niel est devenu millionnaire à 24 ans. Pas grâce à Internet, ça n'existait pas encore, grâce au Minitel. Ce réseau oublié, c'est pourtant un sacré coup de génie français. Un terminal gratuit dans chaque foyer, un système de paiement intégré et surtout une logique d'App Store 40 ans avant l'heure. Le problème, c'est que tout était verrouillé. Seuls les gros médias ont droit à une part du gâteau. Alors, par quelle magouille un étudiant a-t-il réussi à s'y infiltrer et bâtir un empire que personne n'a vu venir? Et comment cette histoire s'est terminée devant des juges? C'est l'histoire que le principal intéressé vient nous raconter en personne. Mais juste avant, petit mot sur le partenaire du jour, Hostinger. Je vous en avais parlé pour leur hébergement web, mais ils proposent aussi un constructeur de sites piloté par l'IA, idéal pour ceux qui ne veulent pas toucher au code. Vous répondez à quelques questions sur votre projet et l'IA vous génère un site complet en quelques secondes avec texte, images et même une boutique en ligne. Tout est inclus dans leur plan business. Hébergement sur des serveurs en France, nom de domaine offert la première année, 5 boîtes mail pro et tous les outils IA pour personnaliser votre site. Avec le code underscore, vous avez 10% de réduction sur les plans de 12 mois et plus. Le lien est en description et on reprend.
Je te propose c'est de revenir vraiment au tout début, de partir des bases de ton origin story et celle du Minitel, qui était un peu concurrente. En fait.
Celle du Minitel, elle est simple, c'est que tu as une France qui est extrêmement dynamique et qui décide de créer des grandes innovations. Donc si tu veux, on va créer l'avion le plus rapide du monde, le Concorde, on va bosser sur le TGV, on va lancer Airbus, qui reste aujourd'hui le premier fabricant d'avions au monde. Et dans ces grands sujets, la France va se dire, le numérique, le digital, c'est quelque chose qui va exister et on va faire un truc incroyable. Cette chose incroyable, c'est qu'on va fabriquer un petit terminal, donc c'est un clavier, un écran, un moyen de se connecter à un réseau. On va créer un réseau derrière, qui n'est pas un réseau internet, hein, qui est un réseau fermé. Et ce que l'on va faire, on va donner ce terminal gratuitement à tous les foyers français. Et comment on va créer l'écosystème? On va faire un kiosque, c'est-à-dire que quand les gens vont se connecter à des services, ils vont payer au travers de leur prix de leur communication téléphonique et on va rémunérer des services.
En termes de réseau, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça ressemble à Internet aujourd'hui ou...
En fait, tu as un protocole central au milieu qui est basé sur une société qui s'appelle Transpac, qui est une filiale de France Télécom, et qui va créer un réseau pour transporter sous forme de paquets les données, qui s'appelle le X25. Donc le Minitel chez nous, on va composer un numéro qui va être 3614, 3615, 3616, 3617. On va appuyer sur connexion. Le Minitel va se connecter au réseau X25, donc c'est des endroits où on concentre ces appels. Et ensuite, ce point de concentration, qu'on appelle des pavis, mais on va oublier long, je vais arrêter de vous compliquer le truc, va retransformer ça sous des formes de paquets. Et nous, de l'autre côté, en tant que serveur, on va recevoir ces paquets, on va les analyser, et donc c'est assez asynchrone. C'est que tu as appuyé sur la touche envoi, ben je reçois envoi, dans ce cas-là, je sais que je dois t'afficher cette page. Donc je reprends, comment ça marche? Je prends mon Minitel, je compose 3614, qui est gratuit.
C'est le nom de domaine, un peu.
Et donc, voilà, je me suis connecté à l'équivalent d'Internet. Et ensuite, je vais dire, je veux aller sur tel site. Et donc, je vais taper le nom de mon site, je vais taper envoi. Et là, la connexion va être établie vers un centre serveur. Et centre serveur va se mettre à gérer la relation avec le Minitel à l'autre.
C'est lui qui fait le routage, etc.
Exactement.
Et quand tu dis le nom du site, c'est un nom de domaine déjà?
C'est un nom de domaine.
Ah, ça existe déjà?
Ouais. C'est pas un nom de domaine Internet, mais c'est un nom de domaine Minitel. Et on va réserver ces services à la presse, parce que la presse va protester, on va dire, mais nous, la presse, on va plus gagner d'argent, et donc on va réserver ces services à la presse, parce qu'on va supposer que les services principaux, ça va être la presse. Et France Télécom, qui est l'organisme qui gère les télécoms à l'époque, qui va devenir Orange, va dire, on va faire une économie là-dessus, on va créer l'annuaire gratuitement. Donc plutôt que distribuer des annuaires à tous les Français de leur département, on va arrêter ça, et on va financer tout cet écosystème de cette manière-là.
Il n'y a pas les horaires de train, par exemple, ou des trucs comme ça?
Si, t'as la SNCF, des trucs comme ça, mais si tu veux, c'est presque anecdotique, puisque pour créer un code Minitel, on a besoin d'avoir un numéro de commission paritaire. Donc, c'est-à-dire être un organe de presse. Donc, la SNCF, ils avaient dû avoir une dérogation, mais ou Air France aussi. Tu vois, le sujet, c'était vraiment, c'est réservé à la presse.
Tu allais au comité central demander ton
numéro de commission paritaire. Donc, il fallait que tu aies un journal pour avoir un numéro de commission paritaire pour lancer un service Minitel.
Normalement.
Non, on a toujours eu. J'étais un grand éditeur de presse à ce moment-là, de l'aide d'informations diverses et variées. On se revendait nos numéros de commission paritaire et nos journaux.
Ben justement, c'est l'histoire du Minitel. Toi, ton histoire à toi, ça commence par quoi?
Mon histoire, ça commence que, en fait, si tu veux, les grands groupes qui font des services Minitel ne savent pas faire ces services Minitel. Donc, en fait, la manière dont elles le font, ce sont des sociétés de services en informatique. Elles vendent ça très très cher, ça marche pas vraiment, et commence dans cet écosystème-là un certain nombre de jeunes, de personnes qui vont créer chez eux des petits services Minitel monovoix. Le pari, c'est de dire, on va prendre la ligne téléphonique, et plutôt que de passer de la voix, on va passer des sons. Donc ça va faire un bruit, comme ça, et ça, de l'autre côté, un équipement va le décoder, va le transformer en 0 et en 1.
Et si on zoomait sur le son, tu verrais les lignes de crête qui correspondent à
qui permettent des 0 et 1.
Okay.
La ligne de leurs parents, la nuit, ils vont la retourner, et les gens vont appeler chez leurs parents, le petit ordinateur va décrocher la ligne, et va les mettre sur un service Minitel. Donc de chez moi, j'ai un Minitel, plutôt que d'accéder à des services plus ou moins payants, je vais pouvoir appeler un numéro normal. Sur ce numéro normal, il y a quelqu'un derrière qui va avoir créé un serveur monovoix. Donc, quand il y a une personne de connectée, personne ne peut se connecter. Donc, on va essayer toutes les 3 minutes jusqu'à réussir à se connecter. Et un certain nombre de gamins qui ont 16, 17 ans, qui sont plutôt débrouilleurs en termes de codage, vont en fauner aller travailler dans ces sociétés de services en informatique qui ensuite vont revendre très cher notre travail, vont nous rémunérer avec des
petits... Comment ça marchait parce que...
On était identifiés grâce à ces petits sites monovoix.
Comment, du coup?
En cash? C'est notre époque, hein. Et on a y allé le mercredi et le samedi, et on était dans des trucs, et on avait des gens brillants avec des costumes cravates, nous on arrivait comme ça, et on prenait le truc, et on était bons.
Incroyable.
Parce que vous étiez encore étudiant, en plus.
On était à l'école, j'étais en première et terminale, ouais. Donc, très vite, j'apprends le C, parce que c'est rapide, et très très vite, j'apprends à avoir un Unix. Alors, l'Unix sur l'IBM PC, ça doit être 45 ou 50 disquettes. Donc, l'installation, c'est une bonne journée, hein. On met les disquettes les unes derrière les autres pour installer son Unix, et on a un Unix. À l'époque, les gens qui faisaient ça, ils faisaient ça sur des mini-ordinateurs. C'était des ordinateurs qui valent des millions de francs, probablement des millions d'euros aujourd'hui. Donc, ils sont des ordinateurs chers. C'est lourd en termes de programmation, et on génère une tâche par personne qui se connecte sur un Minitel. Donc, c'est absolument pas efficace. Ça prend beaucoup de temps machine. C'est pas très efficace.
Donc là, par exemple, toi, tes clients, c'était des médias, par exemple?
Ouais. Enfin, c'était les sociétés de services qui travaillaient pour les médias.
Et eux, ils avaient, dans une sorte de data center, en fait, des gigantesques machines.
Machines. Absolument pas efficaces, parce que vu les vitesses du truc, tu avais des data centers avec, alors, à côté des data centers aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais ils pouvaient avoir 30, 40, 50 baies, des sales serveurs, dans lesquels tu avais ces serveurs-là, et sur lesquels ils savaient tenir 2000 utilisateurs, ce qui était, aberrant pour très, très cher en termes de prix de production.
Et pour savoir qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu veux consulter un site, entre guillemets, Minitel. Aujourd'hui, tout le monde a à peu près en tête que c'est du code HTML qui est après transformé en...
Donc là, c'était la même chose, ça s'appelait du télétexte. Mais il y a des gens qui vont éditer des logiciels graphiques permettant de faire du télétexte. Okay. En fait, le coup de génie, c'est de pas avoir gardé le système monolithique, mais c'est d'avoir permis à tout le monde de lancer à tous les médias, de lancer des centres serveurs permettant à l'imagination de tout le monde d'être fertile, tant sur la partie graphique que sur la partie type de service qu'on va faire. Mais tout de suite, qu'est-ce qui va marcher? Et pourquoi on va nous appeler? Les médias, moi, ça a marché un peu. L'annuaire, ça a marché un peu. Mais les gens vont avoir 3 grandes idées. La première grande idée, c'est de l'astrologie. Il y a des gens, ils payent à la durée de connexion. Il y a peut-être des gens derrière qui sont capables d'échanger, d'avoir un dialogue et donc de faire de l'astrologie. Des jeux. Parce que, en fait, je suis au travail, c'est mon travail qui va payer la facture. Comme pour l'astrologie. Et au bout, je peux gagner des lots. C'est pas trop idiot. Et surtout, le truc qui va exploser, c'est les services dits de Minitel Rose, de rencontres. Puisque je vais pouvoir parler à des tonnes de gens, et c'est la première fois où ça existe au monde. C'est l'équivalent de tout ce que l'on connaît aujourd'hui.
Et ce qui est marrant, c'est qu'Internet, ça n'a pas changé.
Le truc est incroyable. Et d'ailleurs, si vous prenez Mythique, la création de Mythique par Marc Simoncini, c'est juste l'évolution d'un produit sur Minitel qui avait été inventé par un garçon brillantissime qui habite en Belgique, qui s'appelle Être 2. Il fait Être 2, donc on a un formulaire, on prend ces formulaires, on match des gens et on les fait se rencontrer. Et ce que fait Marc ensuite, il adapte juste à l'Internet, on avance de phase, qui existait sur Minitel. Mais si tu veux, il n'y a aucune forme de création. Et donc les gens arrivent en disant on a eu des idées de génie sur Internet. Souvent, on faisait ça sur Minitel, le truc était là.
Et donc concrètement, toi, à cette époque-là
En fait, j'ai 18 ans et en fait, plutôt que de travailler pour d'autres, j'ai une petite idée simple qui consiste à dire il faut arrêter d'utiliser ces énormes ordinateurs et de faire du multitâche, une tâche par utilisateur. J'ai pas les moyens d'acheter quelque chose de cher, j'ai les moyens d'acheter un PC. Et donc il faut que je prenne un PC normal et que j'arrive sur un PC normal à réussir à tenir des centaines d'utilisateurs qui vont pouvoir parler ensemble. Et donc le coup de génie qu'on a, je suis pas le seul d'avoir, on l'a plusieurs, c'est de dire, pour chaque utilisateur, on va avoir un seul soft et on va garder un état par utilisateur. Et donc, avec une seule tâche, on va réussir à gérer des centaines d'utilisateurs. Et dans le même temps, des gens inventent des cartes X25 que l'on peut mettre dans un PC. Donc j'achète une carte qui vaut 10 000 francs, je la mets dans un PC qui vaut 10 000 francs et je réussis avec 20 000 francs à reproduire en termes hardware des choses qui coûtent des millions, voire des dizaines de millions de francs. Conclusion, je produis moins cher ces services et je les vends à mes clients moins cher. Et donc si tu veux, on permet d'exister. Tous les autres disparaissent, déposent le bilan, on les rachète. Et donc, on grossit comme ça à ce moment-là en hébergeant des milliers de services.
Et c'est les prémices de l'effet d'échelle, en fait. C'est-à-dire que en logiciel, aujourd'hui, c'est que tu peux bénéficier d'effets d'échelle de malade.
Alors, tu as une chose qui est incroyable, c'est que, si tu veux, on fait comme aujourd'hui, on hack le truc et on monte le système, sauf qu'on n'a pas les mêmes niveaux de rapidité qu'aujourd'hui. Donc, tu es obligé d'être incroyablement imaginatif. Les codeurs, aujourd'hui, ils se posent pas la question, tu vois. Je sais que vous faites des trucs en Rust ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui trouvent que le PHP, c'est très rapide, tu vois. Alors que nous, on a une vraie contrainte de rapidité. On est obligé de descendre à des très bas niveaux parce qu'on n'a pas la rapidité la rapidité du processeur est un blocage qu'il n'est plus aujourd'hui.
C'est quoi tes souvenirs de cette ambiance, justement?
C'est une ambiance, si tu veux, t'as le vieux monde très vite, les différents petits jeunes qui font ça, ils vont disparaître, nos papis, ouais. C'est le monde était un éternel recommencement, on tue toujours les anciens. Et donc, très vite, les papis qui avaient des gros trucs vont disparaître. Après, c'est un métier, le trafic, il est le soir et la nuit, donc c'est un métier où on vit on va au bureau vers 13, 14
heures. T'es encore étudiant, globalement?
Non, j'arrête, je drop l'école à 18 ans, en fait. Je suis en maths sup, je suis en début de maths sup. Parce que ça marche.
Et c'est, en fait, tu finis rapidement par gagner plus d'argent que tes parents.
Mon premier mois de salaire, parce que en fait, le truc qui est incroyable, c'est que France Télécom te paye avec 2 ou 3 mois de retard, mais les banques, ils te disent tout de suite le montant qu'ils vont te devoir. Donc les banques, elles te payent tout de suite, donc t'as tout de suite l'argent. Et mon premier mois de salaire, c'est 200 000 francs. Donc si tu veux, ça doit faire 150 000 euros d'aujourd'hui, un truc comme ça. Donc le truc est tout de suite délirant. Donc si tu veux, je suis à l'école la journée et je passe mes nuits à faire ça. Je gagne en un mois ce que gagnent mes parents en 2 ans. Donc si tu veux, je drop l'école et je commence ma vie professionnelle immédiatement.
Début du Minitel, c'est quoi le modèle économique? Comment tu gagnes autant d'argent?
Ben parce que tu crées, d'abord parce que tu vas voir des gens, tu vas voir un média, typiquement Énergie. Énergie fait énormément de services et tu dis à Énergie, voilà, je vais te faire un service de jeu, un service de rencontre, un service de ce que tu veux, je vais le lancer pour toi, je vais l'exploiter pour toi. Et quand la nuit, tu as plus de pub, t'as pas de pub, des gens qui t'achètent pas la pub, mets-moi une petite pub. Et ce qu'on va faire, je vais te reverser, au début le modèle, les centres serveurs reversaient 30% du chiffre d'affaires, nous on arrive à 50, puis à la fin on va reverser 80, hein. Donc si tu veux le truc va être explosif, mais comme on a une marge énorme parce qu'on produit très peu cher, bah, tu fais-moi de la pub et avec tout l'argent que je vais encaisser, je vais te reverser 50%, mais c'est explosif. Ils te mettent de la pub, ils touchent plus d'argent qu'avec les autres, conclusion la nuit, ils te mettent que de la pub chez toi, et tu fais tout de suite de l'argent, dès le premier mois, et tu les payes très vite, et le truc explose.
C'est super intéressant, il faut s'arrêter sur ça parce que quand on y pense... ce que tu inventes à ce moment-là.
J'invente rien. Ce que je commercialise.
Vous commercialisez. C'est un truc qui ressemble vachement au modèle des App Store, en fait.
Ouais.
De maintenant.
Complètement.
Où t'as du partage de revenus, où tu échanges des services d'hébergement et de visibilité et tout ça, contre 30%. Mais en plus, 30%, c'est littéralement le.
Alors, sauf que nous, on commence à 50, oui. Tu vois. On termine à 20. Mais si tu veux, la différence, c'est qu'on fournissait nous-mêmes le logiciel. C'est-à-dire que.
Tu fais tout pour eux.
On fait tout. Donc, ils avaient juste le marketing. Et si tu veux, on a vendu des services à France 2. Enfin, France 2, tu peux dire, ils ont fait du Minitel de rencontre.
C'est ça qui est marrant.
C'est un peu bizarre. Je sais que. Enfin, ça s'appelait Antenne 2, mais le truc a été fait aussi. Mais ça se dit pas, hein, ça s'oublie, des choses comme ça. Mais le truc était là. Et donc, on va leur vendre ces services pour remplir leur espace publicitaire.
Pourquoi tout le monde faisait du Minitel Rose? C'est juste parce que c'était énormément rentable.
Non,
et du coup...
mais au-delà de la rentabilité, t'as un truc. Tu as eu mai 68, c'est la libération des mœurs, etc. Mais tu vois, c'est les petites annonces dans les journaux. Là, tu as quelque chose d'interactif. Il est 22h, tu peux peut-être trouver un amoureux ou une amoureuse, peut-être que pour une nuit, en une demi-heure. En une heure, tu vois. C'est Tinder à une autre époque. Tu vois, le truc est là. Et tu es dans une époque de libération des mœurs incroyable, que tout le monde s'est accaparé. 68, c'était 15 ans avant. Et t'as quelque chose d'exceptionnel. Donc, les services de rencontre vont exploser.
C'est, entre guillemets, ta faute si jamais, le soir, sur tous les espaces publicitaires, il y avait de l'astrologie.
C'est pas que la mienne. J'avais des concurrents. Nous avions des concurrents, mais nous avons un peu forcé le truc. Mais ça va exister qu'un temps. Parce que si tu veux, au bout d'un moment, ce truc explosif, ça va être rentré dans les mœurs. Et comme c'est rentré dans les mœurs, c'est moins tabou. Et quand c'est moins tabou, ça s'acclimate et ça devient moins fun.
Donc C'était une sorte d'hébergeur, en fait, d'hébergeur de services.
Et nous avions nos propres services. Et derrière, bien évidemment, comme on se lançait et qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, des rumeurs disent, je pense que c'est faux, qu'un certain nombre de personnes dans nos équipes allaient sur les services concurrents pour aller draguer les garçons et les filles en leur demandant de venir sur notre service parce qu'il était mieux. J'ai eu une petite condamnation juridique pour ça, mais c'est une erreur judiciaire majeure. J'ai pas pu faire ça. Ça serait de la délinquance grave. On a même eu des perquisitions, mais c'est une erreur. Et on essayait, parce que le policier nous interroge, il dit, mais attendez, c'est comme si vous alliez dans la boulangerie d'en face et vous disiez, venez chez moi, la baguette est mieux. C'est la concurrence saine et loyale. Non, je ne vois pas ça. Et donc le policier, je ne vois pas ça comme de la concurrence saine et loyale. Et vous vous trompez. Voilà. Mais donc le sujet était un peu celui-là. Comme la loi n'existe pas, on se fait condamner sur des piratages. Enfin, ils trouvent des biais, juridiques. À l'époque, enfin, aujourd'hui, c'est connexe, mais il y avait beaucoup de pirates et les pirates, on les condamnait sur le vol d'électricité. C'est-à-dire qu'on s'est connecté sur
les pirates à l'époque?
Moi, je viens du piratage, tu vois. Donc, on utilisait ces petites choses, le Minitel, pour aller pirater des services.
Okay. Depuis le Minitel?
Depuis le Minitel, tu pouvais aller sur le réseau, ce réseau X25 qui servait aussi à relier des entreprises. Et ce réseau X25, il existe en France et dans le monde entier. C'est-à-dire que tous les opérateurs de télécom du monde ont interconnecté ces réseaux. Et quand le Minitel est arrivé, on a dit, on va utiliser ce réseau mondial pour faire ce Minitel, on va le mettre par-dessus. Mais tous ces réseaux sont interconnectés. T'as l'équivalent d'une adresse IP, mais donc si tu tapes une adresse IP d'un site en dehors de France, tu vas te connecter sur une machine, c'est assez mal protégé, tu vas pirater cette machine, et quand tu vas pirater cette machine, tu vas accéder à un certain nombre de choses, et tu deviens un pirate.
Parce que typiquement, donc pirater la machine, c'est-à-dire pouvoir la contrôler à distance.
Exactement. Tu vas avoir un logging mot de passe et tu vas tomber sur le système d'exploitation.
C'est Telnet,
C'est un peu moins moderne que ça, mais c'est un peu moins branché qu'un Telnet. Mais tu vas te connecter et tu vas te retrouver à un logging mot de passe et tu vas souvent être root automatiquement.
Okay.
Et puis à côté de ça, j'ai des copains qui vont être encore plus ambitieux, qui vont aller rentrer à l'intérieur des immeubles, parce que les immeubles n'ont pas le niveau de protection, les data centers n'ont pas le même niveau de protection, vont rentrer à l'intérieur, vont réussir à se connecter à des machines, vont le faire à l'inverse.
Des gros malades.
Et puis on va pirater ces machines, mettre des services Minitel pour entre nous rigoler, et on va faire ça. Sauf qu'à un moment, il y a un certain nombre
Ça veut dire quoi, mettre des services? Parce que,
en gros, plutôt que de
connecter
plutôt d'avoir le serveur chez toi, tu vas pirater le serveur de quelqu'un d'autre.
Pour héberger ton truc de
site. et puis tu vas héberger ton site pirate, et on va rigoler, et puis voilà. Donc tu vas créer un bordel comme ça.
Moi, surtout, je me demande, quand tu dis des services, des sites pirates, héberger des sites pirates et tout, c'est quoi par exemple un site pirate à l'époque? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Est-ce qu'il y a déjà par exemple du Warez, du partage de films?
Parce que on a un petit problème de volume, si tu veux. On n'arrive pas, mais c'est beaucoup de piratage de logiciels, beaucoup de piratage de sites, tu vois, expliquer comment on a fait, que j'ai installé ça là, etc., comment ça se marche. Et puis à côté de ça,
sur la méthode, genre apprendre à hacker d'autres sites. Des tutos ou des choses comme ça?
Des tutos, des choses comment pirater des logiciels, parce que des protections, parce qu'à l'époque, on protège les logiciels au travers, sur la disquette. S'il n'y a pas encore le CD, là, avant le CD, il y a la disquette. Et on va protéger la disquette de manière, avec des gens qui ont des idées de génie, parce qu'il y a
Tu faisais ça déjà?
Je suis pas un délinquant, je sais pas pourquoi. Donc tout le monde piratait, Et j'ai connu des gens que je connais encore aujourd'hui, de cette époque, où on échangeait des disquettes. On venait avec nos tas de disquettes, le mec avait nos tas de disquettes, et on les échangeait. Tu avais un club qui s'appelait le club Microtel à Boulogne, parce que l'État créait des choses pour aider à la propagation de la connaissance et l'informatique, qui étaient des énormes repères de pirates qui venaient avec leurs disquettes échanger leurs logiciels. Le truc était là. Et puis tu as un troisième truc qui va me passionner à ce moment-là, puisque tout ça est très concentré à Paris. Tu as un autre monde underground qui est celui des catacombes. Donc tu mélanges tous ces gens-là et on est, je sais pas, une vingtaine de copains à faire tout ça, tu vois, à mélanger un peu tous ces savoirs. Certains font certains bouts, certains ne le font pas. Mais on va mélanger tout ça et créer un monde underground à Paris, assez marrant. Et à un moment, les services de police vont commencer à se dire, ce truc est un énorme bordel. Et l'histoire est connue et écrite et je vais me retrouver attrapé pour un piratage de numéros de téléphone, des téléphones portables, dont les numéros de téléphone de l'Élysée, etc. Et donc, je vais me faire arrêter par la DST, et la DST va m'utiliser pour créer le premier service de lutte contre le piratage informatique. Mais donc tout ça, c'est la continuité de ce monde du Minitel. Je suis désolé, je pars dans tous les sens.
Non, au contraire, c'est génial.
C'est la meilleure partie. Et toi, pour poursuivre un peu la trajectoire, donc tu montes ton activité, il y a un moment où ça s'effondre. Mais ça dure, le Minitel, globalement...
En fait, si tu veux, ça s'effondre jamais, ça progresse toujours. Pourquoi? Parce que t'as une concentration du secteur, t'as de moins en moins de gens qui produisent, et puis que l'on se met à avoir des idées bonnes. En fait, mon métier pendant 10 ans, ça va consister tous les jours à arriver au bureau en me disant quel est le service incroyable qu'on est capable d'inventer aujourd'hui.
Vous étiez combien en gros de... Parce que toi, tu passes d'étudiant hacker
à... on devient à la fin, je sais pas, 200. Non, ça devient une vraie société, c'est gros, etc.
Mais comment toi, cette transition-là de hacker dans sa chambre qui pire des trucs à... Je gère 200 personnes. Ça se passe comment cette...
Bah, ça se passe doucement. Au début, t'es tout seul. Après, je fais le logiciel, je fais le marketing. Et puis, au début, on a besoin de gens qui animent tes services. Tu vois, des animatrices de Minitel de rencontre, des gens qui font de la voyance. Donc, tu vas commencer à avancer
oui,
comme
oui,
ça.
Oui, donc toi, tu
Ah, mais tu fais tout. Mais
tu
je fais
vraiment
ça pour
des
mes
employés
clients.
Qui sont des.
Ah, bah oui,
des
parce voyants. Que tu vends ça. Bah, ouais. Je ne donnerai pas mon avis global sur la voyance et la réalité de la voyance. Comment dire? Je suis sûr que c'est vrai et qu'il y a des gens qui sont des prévoyants. Je ne les ai pas encore rencontrés. Je suis sûr qu'il y a des médiums brillants. Je ne les ai pas non plus rencontrés, mais je suis sûr que ça existe. Je ne tiens pas à porter la preuve sur un métier.
En tout cas, ils le font.
Voilà. Mais donc, si tu veux, tu vas vendre ces services et tu vends ces services clés en main, puisque les gens mettent de la publicité, tu as le code, tu leur vends ce code et le truc est là. Et quelque chose d'anecdotique, c'est que la marque Free, c'est un code Minitel que j'ai et que je gère pour le journal qui s'appelle Nice Matin. Donc, tu as un journal dans le sud de la France qui s'appelle Nice Matin et pour Nice Matin, je gère le code 3615 Free. Et donc, le code 3615 Free, c'est un code de Minitel de rencontre. Et si tu veux, quand, en 98, j'ai l'idée de créer Free avec des copains qui ont créé Free, on se dit, mais comment on va appeler ça? Et on a la marque Free et on a le service Minitel de rencontre qui s'appelle Free. Et on n'en a que 50% parce que 50% de la parc appartient à Nice Matin. Et Nice Matin vient d'être racheté par le groupe Hachette. C'était un propriétaire local niçois qui avait ça. Il a vendu ça à un grand groupe de presse qui s'appelle le groupe Hachette. Mais il faut que je récupère mes 50%. Et donc, j'appelle le nouveau dirigeant d'Hachette qui dirige Nice Matin. Et je prends mon accent un peu parisien. Je dis, voilà, je vous appelle parce que là, on va lancer la nouvelle campagne pour 3615 Free. Elle me dit, alors qu'est-ce que c'est que 3615 Free? Alors je vous explique, c'est du Minitel rose, c'est beaucoup de sexe, c'est très très bien. Et puis, mais ça rapporte de l'argent. Oh ouais, on vous envoie quelques milliers de francs par an, hein. C'est beaucoup d'argent pour vous. Donc j'ai quelqu'un qui est en panique, il me dit, mais concrètement, pourquoi vous m'appelez? Et on va faire une campagne d'affichage avec des filles toutes nues, on paye 50-50, on met ça à Nice. Dis monsieur, ça a l'air très très bien vos activités. Ce que je vous propose, vous faites ça tout seul. Et puis, mais on partage la marque, ben, je vous donne les 50% de la marque. Et donc, on reprend la marque Free. Et j'ai racheté quelques années plus tard, Nice Matin. Donc, tu vois, j'ai bouclé la chaîne.
Et juste pour réaliser un peu la timeline, c'est-à-dire que il y a un moment où, globalement, le Minitel, ça marche pas.
T'as plusieurs moments où ça marche pas. Il y a un moment, le côté racoleur du Minitel de rencontre marche moins bien. Et donc, là, il faut inventer des tonnes de services. Donc, on va faire de l'espérance de vie. On a une idée, nous, une idée de génie, c'est de faire un annuaire inversé. C'est-à-dire de faire un produit qui s'appelle 3617 Annu, qui va devenir le produit le plus rentable et le plus populaire sur Internet. Au plus fort, on va faire, je crois, 70 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est énorme, qui consiste à taper un numéro de téléphone et ça nous dit à qui appartient ce numéro de téléphone.
C'est fou. Pour expliquer pourquoi c'est fou, c'est que pour y arriver, il faut certaines données très précises.
Je vois ce que tu vas évoquer.
C'est le seul moyen de faire fonctionner
la base de données des 25 ou 30 millions de numéros de téléphone en France. Malheureusement, cette base de données, elle appartient à France Télécom. France Télécom ne souhaite pas la vendre et on a une petite idée. C'est de prendre des Minitel, de retourner l'usage du Minitel et d'avoir des fermes de Minitel, c'est plus grand que le mur là, qui vont se connecter, parce que le Minitel est gratuit pendant 3 minutes et qui vont se connecter en permanence sur l'annuaire, récupérer la base de données, la pirater hein, en toute franchise, et créer une base de données des 30 millions de Français à l'époque ou 25 millions de Français et la mettre à jour en permanence.
Donc c'est le mot scrapping. Fit son apparition.
C'est la naissance du scrapping sur Minitel.
Pour faire des économies, on a pris des Minitel dont on prend l'usage parce que sur le Minitel, ils avaient une idée de génie. Ils avaient mis une prise à laquelle on pouvait se connecter. Et donc on a fabriqué en hardware des cartes et on peut en brancher plusieurs sur un PC. Et donc on pilote le Minitel au travers d'un PC. Et donc tu as une salle où tu as des tonnes de Minitel et qui t'entend leur truc parce que ça faisait du bruit. T'entends donc le bip, clac, c'est connecté et clac de déconnexion. Et donc si tu veux, quand t'as 200 Minitel qui se connectent toutes les 3 minutes, c'est assez, tu peux pas rester dans la salle serveur ou la salle machine ou le data center parce que t'as mal à la tête très très vite. Et donc on va récupérer toutes ces données. Sauf qu'au bout d'un moment, ce service va marcher très fort. France Télécom va trouver que peut-être on pirate leur base de données, va nous assigner, on va perdre, on a lancé Free, ça finance Free, hein, cette activité-là, on va perdre, on va se faire condamner à 100 millions avec exécution provisoire, on doit les payer tout de suite, ce que nous n'avons pas, de francs, mais on ne les a pas, hein, en toute franchise. En fait, l'idée, c'est que cette base de données, elle ne peut pas être, personne ne peut la reproduire. C'est notre défense, elle doit être à disposition gratuitement. Ce qui est le cas aujourd'hui, hein, cette base de données, vous pouvez, pour quelques milliers d'euros, juste les coûts techniques, elle peut être achetée à Orange. Et donc, si tu veux, on va fabriquer la jurisprudence avec Orange. Orange va nous dire, on va faire un basculement. Au début, vous allez la payer. Ça va coûter de moins en moins cher année par année. Mais comme ça, nous, on perd pas tout de suite la recette. Vous, bon, bah, ça va vous coûter un peu plus. Mais enfin, on connaît la marge que vous générez. Donc, on va s'arranger. Et on trouve un deal intelligent qui va faire que la base de données va tendre vers zéro.
C'est comme si rétrospectivement, ils avaient une partie de vos gains, en fait.
Alors, on reprend toute la chaîne. Je suis chez moi. Je paye à la minute. Donc, je paye, par exemple, un franc ou un euro la minute. Un euro, c'est cher, mais je paye un euro la minute. Sur cet euro, ils en regardaient 20, 30, 40, 50%.
Ah oui.
Nous, on touchait les 50%. Et quand on faisait ça pour des tiers, on reprenait un bout. Donc, si tu veux, ils touchaient déjà.
Oui.
France Télécom a bien gagné
si
de l'argent.
Si tu veux, allez, très bien. Il n'y a pas eu de plainte sur le Minitel. Ça se passait très, très bien. Le truc était là.
Et donc, l'expérience, c'est que tu avais ta petite boîte, tu mettais un numéro.
Ouais.
Bam! Et tu savais qui c'était.
À qui ça appartenait.
Ça,
ouais.
C'est fou.
Et donc, si tu veux, on va faire énormément.
Plus. Enfin.
Si, il y en a plein sur Internet aujourd'hui qui fait alors il magouille pour te faire payer, etc. Ouais. Je crois qu'on a toujours Anu.com existe toujours et est gratuit. C'est le dernier gratuit, mais comme on fait pas de pub, c'est pas le plus populaire. Donc, on a toujours pas mal d'usages d'ailleurs. J'avais regardé les stats, je sais plus, il y a un an, on a pas mal d'usages sur le site Anu.com.
Est-ce qu'il existait un scénario où Minitel, donc, invention française, précurseur, avait une autre trajectoire. Parfois, on résume en disant, en fait, on avait inventé Internet avant qu'un Internet n'existe.
Ouais.
Mais est-ce que tu penses qu'il existait d'autres mondes où, en fait, c'était Minitel qui devenait Internet?
Ils ont essayé dans d'autres pays, ils ont essayé, je crois que c'était à Chicago, une expérience. Ça n'a pas marché. Le vrai secret, c'est qu'on a filé le terminal gratuitement en français.
Ça, c'est fou, hein.
Donc, tu avais une volonté politique dans une société publique de distribuer ça gratuitement au foyer. Et ça a été un truc de fou. Ce que j'ai retiré du Minitel, c'est de comprendre le consommateur. C'est de se dire, qu'est-ce qui lui plaît? Je vais te dire un truc, on a appris la publicité. On lance un service d'espérance de vie. Et donc, on fait notre pub télé, et c'est, quelle est votre espérance de vie? Ça marche absolument pas. Et on retransforme cette pub, on fait un fond noir, on fait une musique stressante, et on fait, combien de temps vous reste-t-il? Explosion, et on va générer des millions de francs, d'euros de profit avec ça. Et si tu veux, on va apprendre le marketing, on va apprendre le produit qui plaît aux gens, le produit qui plaît aux consommateurs, on va apprendre la notion de prix, c'est-à-dire le prix, quel est le bon prix, quel est le juste prix, on va apprendre la notion de rapport qualité-prix, ce qui est pas toujours évident, parce que le prix dépend de ce que je vends. Et donc, tous ces savoir-faire-là, on va les apprendre.
Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a plein d'exemples de groupes ou d'entrepreneurs qui ont réussi à prendre une vague technologique, qui se retrouvent hégémoniques dans cette durée-là et qui ratent la suivante, en fait. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est l'angoisse de tout entrepreneur, c'est est-ce que je vais rater la prochaine rupture technologique qui va rebattre toutes les cartes? Et toi, rétrospectivement, comment t'expliques que justement, entre guillemets, vous ayez senti le vent tourner?
Tu sais quoi, c'est une notion de chance, c'est que je suis pirate, je rencontre un autre pirate qui me dit je vais créer le premier fournisseur d'accès à Internet parce que tu sais, t'as 3 utilisateurs aux US, ça a marché en France, j'y viens, on se lance, on essaye, je ne crois jamais que ça va marcher, je ne pense jamais que ça va marcher, et 2 ans après, j'ai tous les dirigeants du CAC 40 qui viennent au bureau se faire une démonstration d'Internet, et moi j'y crois pas. T'as un coup de chance, c'est les chances de la vie.
Mais tu essayes. Tu y vas quand même, c'est ça qui est marrant.
Ouais, mais comme on fait aujourd'hui avec des tonnes de startups, on se dit, bon, vas-y, on essaye, on verra si ça marche, tant mieux. Tu vois, c'est le même état d'esprit. J'adore le truc, mais c'est un truc de scientifique. Quand moi, je commence à faire de l'internet, le web n'existe pas.
Il y a que des mails, des serveurs.
Tu as des mails, les mails, tu t'es pas connecté en permanence à internet, donc pareil, il faut que tu te connectes pour envoyer tes mails. T'as des forums de chat, mais c'est IRC, ça existe toujours, mais c'est un peu, je sais pas.
HTTP n'existe pas encore.
Non. T'as des tonnes de choses comme ça qui ont vécu une époque. Le truc, c'est comment arrive à te recaler et fournir le service que les gens veulent utiliser aujourd'hui.
Moi, j'ai des petites questions.
Vas-y.
Où, en fait, j'ai envie de savoir si c'est vrai ou pas.
Vas-y. Oh,
j'ai
merde.
Lu des trucs.
Pas mal.
Et il y a ce fameux concept où, en fait, pour pouvoir avoir un service Minitel, il fallait être un organe de presse. 2 choses. Est-ce que vous avez publié un fanzine juste en 10 exemplaires pour faire si.
C'est quoi un fanzine?
Ah ouais, c'est un mot de vieux, ça.
Comment?
Un petit journal.
Un petit journal, quoi. Okay.
Alors, j'ai racheté un garçon qui s'appelait Hervé Schauer, qui existe toujours, qui fait la sécurité. Hervé Schauer, sécurité. Je lui ai racheté un journal qu'il avait lancé, qui s'appelait Des pieds, des oreilles et des nez.
Pour pouvoir
Bah pour faire des services militaires, et qui était un journal humoristique, qu'il avait publié plutôt pas mal et que j'ai continué de faire quelques numéros derrière parce que de temps en temps, parce qu'au bout d'un moment, il y avait peut-être 200 numéros de commission paritaire, il s'est mis à y en avoir des milliers. Donc ces gens se sont dit, on va peut-être vérifier ce que font vraiment ces gens. Donc de temps en temps, ils nous demandaient un exemplaire de notre journal. Bon, alors toutes ces choses existent parce que.
C'est un prétexte pour avoir ton numéro, c'est ça?
Pour me demander un service militaire.
Ah, ça change très bien qu'il y avait un service de presse. Militel Rose, c'était quand même
bizarre. C'est un truc. Puisque au bout d'un moment, France Télécom nous disait, vous avez 100 codes Minitel. Ça peut pas correspondre qu'à votre média. Ah, j'en ai un autre. Ah, bah d'accord. Bah montrez. Ah, bah ça c'est très bien. Voilà. Donc on jouait un peu avec les règles et on en avait beaucoup. Puis on avait toujours peur d'en perdre un et donc on en avait d'autres en stock. Donc on éditait les journaux pour de vrai.
Donc c'est vrai.
Et il y a une rumeur qui dit aussi que des opérateurs et opératrices du Minitel Rose, donc qui chattent avec les clients, ils et elles avaient leur carte de presse parce que vous étiez un organe de presse. Est-ce que c'est vrai? Parce que ça m'a paru.
Oui, et je vais te dire pourquoi. Parce que ça leur permettait de payer moins d'impôts. Parce que tu avais un discount d'impôts quand tu avais une carte de presse. Donc la réalité, c'était oui pour la baisse des impôts.
Ah, mais ça, c'est incroyable.
Mais c'est normal, ils éditaient du contenu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal qu'ils étaient journalistes, ces gens-là. Mais c'est quoi cette vision du journaliste?
Nous n'avons pas de carte de presse.
Ça, voilà. Tu sais l'activité qu'il faut faire maintenant.
Il faut faire du Minitel. Je vais à fond sur le Minitel.
J'aurais bien aimé faire une toute petite incursion plus récente où on quitte complètement le Minitel. Et pour justement se téléporter aujourd'hui, donc tu as la chance aujourd'hui de pouvoir financer tes projets. Et moi, j'ai déjà entendu, je sais pas si tu confirmes moi, mais que tu fonctionnes un petit peu en obsession et que t'as des obsessions de 3 à 6 mois. Et je suis curieux de savoir c'est quoi toi en ce moment qui te drive le plus, t'intéresse le plus.
Moi, ce que j'aime bien, c'est créer quelque chose de nouveau. Et quel que soit le secteur, c'est comment on invente quelque chose qui soit capable soit de disrupter un marché, soit d'apporter un avantage à la France, tu vois, de faire un truc comme ça. Et ça peut être dans toute forme de domaine. En discutant avec un garçon qui s'appelle Paul Morlet, on a créé Lunettes pour tous, qui vend des lunettes à 10 euros, qui est un modèle explosif, qui prend des parts de marché, qui rend accessible la paire de lunettes à tout le monde. Le truc est là, tu vois. Et juste, on échange à un instant de raison. On a une idée. Je suis content de financer, je suis content d'aider. Mais en fait, la personne avec qui je fais ça, tu pars d'une idée de base et elle te fait une idée de génie. Et on lance ça dans une petite boutique au Châtelet. Il lance ça le vendredi. Le samedi, j'y vais. J'arrive même pas à rentrer dans la rue. Donc, tu vois, la rue, elle est bourrée. Les mecs font la queue. Bah, ça marche, prends. Et tu vois, c'est ça, c'est comment.
Ça qui t'amuse. Ça, comment...
Et donc, si tu veux, pendant 2 semaines, je vais être omnibulé, échanger avec lui. En fait, j'ai été recherché chez 42 tous les meilleurs élèves. Et j'ai fait un message aux 5-6 meilleurs élèves. Il y en a un qui me dit, moi, il y a un sujet qui me passionne. Je vais pas griller le sujet, mais. Et tu vois, on échange 4-5 mails par jour. Je l'ai dans la tête toute la journée. Il est brillantissime, il fonce, c'est pas vraiment du code, il va y avoir du logiciel, etc. Mais il a une super idée. Franchement, moi, je l'accompagne. Et on échange toute la journée, on échange plusieurs mails toute la journée. Et c'est ma passion du moment. Et puis à la fin, on fait un truc, t'as de l'IA, t'as du truc, tu mélanges toutes nos connaissances communes, ma connaissance marketing, la sienne, elle est bien meilleure sur les sujets qui le passionnent. Et dans 6 mois, on se reparle avec un truc qui, j'espère, sera génial, révolutionnera la France, le monde. Et c'est des choses basiques. Et c'est ça que j'aime. Et si tu veux, tu peux te passionner pour ça. Pour l'IA, tu peux te passionner pour ça, pour plein de sujets.
Et parmi ces projets récents, tu as monté un laboratoire de recherche, notamment, avec Monsieur Saadé et Eric Schmitt.
Ouais.
Mes souvenirs sont bons. Et vous avez sorti des trucs. Et...
Bah ouais, plutôt pas mal, non?
Bah enfin, ouais,
Je sais pas. Puis il y a même une boîte qui s'est créée, là, avec des anciens qui sont partis, créer une boîte et tout.
C'est quand même pas si facile de faire des sorties en IA qui bousculent la communauté.
Ah bah oui, quand tu bailles Eleven Labs dans un labo avec 10 mecs à Paris dans un bureau, oui, évidemment, ça, c'est tu fais mieux et que c'est gratuit, évidemment.
Voilà.
Mais c'est le jeu.
Mais il faut qu'on raconte ça parce que je pense que tout à part les aficionados, évidemment, tout le monde en a pas forcément entendu parler. Ça a peut-être pas été assez relayé, par exemple.
Si tu veux, le pari, c'est quoi? Le pari, il est le suivant. Ça consiste à dire, est-ce qu'on a le droit de se résoudre à ce que l'intelligence artificielle, elle soit exclusivement chinoise aux États-Unis? Moi, j'ai pas envie de ça. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a les meilleurs talents ici, que nos meilleurs talents, ils s'en vont. Et le pari, c'est de dire, créons un laboratoire ici où on va prendre les meilleurs, qui vont pouvoir faire de la recherche, qui vont pouvoir publier des modèles, créer des systèmes, sauf qu'on va les réaliser open source. Il y a pas de finalité commerciale. Et mettons de l'argent pour financer ces gens-là, garder ces talents ici, bien les payer, mais dans un labo dont la finalité n'est pas commerciale. Encore une fois, c'est de rendre en open source des modèles utilisables par tout le monde.
Et donc, à vous trois, ça fait 300 millions.
Mais alors, en fait, moi, je pars tout seul avec cette idée-là. J'ai Rodolphe Saadé qui m'appelle, il me dit, raconte-moi ton truc. Je dis, c'est de l'argent qu'on perd. Il me dit, je mets pareil. Et puis, j'ai Eric Schmitt qui me dit, pourquoi? Et on n'appelle pas Eric. Bah, si on appelle Eric, bah, viens, Eric. Voilà. Et je me retrouve avec de la philanthropie à la française. Je suis ravi parce que c'est pas trop ce qui existe en France. Tu vois, là, je vous regarderai, je suis, on finance avec Eric Schmidt et d'autres personnes le CERN pour aider à faire de la recherche. Mais tu vois, comment on est capable de se dire que c'est l'argent que j'ai pu gagner peut servir à aider mon écosystème, mon modèle.
Et ce qui a fait le plus parler, c'est, enfin, j'ai l'impression que l'angle d'attaque de ce laboratoire, ça a été l'audio.
La voix, c'est le multinodal et notamment la voix.
Est-ce qu'il y a une raison? Enfin, tu vois, quelle est...
Parce que les talents qu'on a trouvés étaient spécialisés là-dedans. L'idée, on devait faire ça. Le Monde a fait un portrait, un très beau portrait d'Arthur de chez Mistral et raconte en partie cette histoire. Mais tu vois, au début, ce labo devait être créé avec l'équipe de Mistral. Et à un moment, ils nous disent, légitimement, ils ont 100 fois raison et ce qu'ils font, c'est incroyable.
On va aller faire une licorne. On revient.
Ouais, mais on va faire un produit commercial. Mais ils ont raison. Enfin, tu vois, chacun vit sa vie comme il l'entend. Et aujourd'hui, tu as des chercheurs en intelligence artificielle au CNRS qui sont les plus grands génies du monde, qui sont payés quelques milliers d'euros par mois. Et ils ont décidé de rester là et c'est leur choix. Et si tu veux, moi, je voulais faire quelque chose d'intermédiaire, c'est-à-dire dire, il y a des talents qui ont cette vision de l'intérêt général, mais ce qui n'a pas empêché une partie des gens de Qtie qui disent, bah, maintenant, nous, on utilise ce qui a été fait en open source pour aller créer une société. Ouais. Et ce qui montre, c'est incroyable. Et nous, on soit investisseurs et je suis ravi qu'on soit investisseurs dedans. Et
pour ça s'appelle Gradium.
Exactement.
et
c'est incroyable ce qu'ils font.
Et pour raconter un peu, c'est-à-dire que le premier projet, parce qu'il n'est pas évident pour un labo de recherche, même bien financé ouais. et tout ça, c'est Mochi, la première ouais. sortie un peu tonitruante et qui a fait un boucan quand même.
Je suis toujours fier quand je vais aux US et qu'on parle de Mochi, tu sais.
C'est quand même la classe.
Les mecs te disent, ouais, le truc, donc, il est incroyable. Ouais.
Parce que pour raconter, t'as 8 pélos, globalement. qui ont bossé, je sais pas combien de temps,
mais. Tu sais quoi? Ouais. Tu refais ce qu'on a toujours su faire. C'est-à-dire que faut mieux un génie que 100 personnes moyennes ou pas motivées dans un endroit. Et là, tu mets 8 génies ensemble qui sont archi motivés.
De ce que j'ai compris, ce qui est impressionnant dans ce modèle-là, c'est que donc, pour que les gens comprennent, c'est du full duplex. Donc, c'est-à-dire que on parle au modèle, il nous répond dans l'autre sens.
Je vais essayer de te le simplifier ouais. et faut les inviter eux, mais leur modèle ou leur idée, c'était pas de, je prends la voix, je la repasse en texte, je reprends un LLM, je repasse en voix et je rediffuse. C'est trop lent. Et leur chose, je vais le dire avec mes mots et c'est technologiquement complètement faux, mais plutôt que, et je sais que j'ai vu une émission sur les LLM, vous expliquez comment ça marchait, donc je sais que vous savez comment ça marche. Mais plutôt que d'utiliser les mots textes, je vais utiliser les enregistrements des mots. C'est pas exactement ça, mais c'est ça. Et donc, je gagne une rapidité incroyable. Et donc, si tu veux, ils ont des idées de génie de manière différente pour faire ça, qui apporte au bout un produit exceptionnel, qui se développe, qui est utilisé, qui est open source et avec un bruit mondial parce qu'ils le release et les gens peuvent l'utiliser en ligne. Ça se parle de la manière dont on se parle. Et puis après, ils vont redévelopper des nouveaux modèles autour de ça. Ils ont un modèle avec la voix du général de Gaulle. Enfin, ils ont recréé des choses incroyables. Typiquement, ils recréent un modèle qu'ils n'ont pas mis, qui n'a pas été publié. Peut-être qu'il a été publié aujourd'hui avec 3 secondes de ta voix. Ils peuvent synthétiser ta voix sans fin dans tous les sens.
Je crois qu'il est
dans toutes les langues. Mais en open source, ouais. ils faisaient gaffe parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des mauvais usages. Donc ils ont traîné sur le sortir, mais il était utilisé et il a été présenté en avance de phase.
Et c'est marrant, il y a cette spécialité, j'ai l'impression, qui émerge naturellement, mais de faire d'être très efficient. Genre, en France, j'ai l'impression, mais que il y a la méthode américaine, on va dire, et nous, on a une spécialité qui semble se dégager, qui est de faire efficient, des petits modèles.
Écoute,
qui marchent
moi,
très, très
c'est
bien.
Ce que je connais. C'est le succès de Free repose sur quoi? Repose sur cette efficience. C'est-à-dire de dire, on ne va rien sous-traiter, on va tout faire en interne avec des gens brillants, des génies. Quand on va fabriquer, on est un opérateur télécom, quand on va fabriquer la box, c'est-à-dire qu'on va la designer, qu'on va faire 100% du soft, ça, les gens vont nous prendre pour des grands malades.
Et l'électronique,
si tu veux, tout est designé en interne. On l'a fait fabriquer en Asie, mais tout est designé en interne. Quand on va arriver dans l'internet et on va dire, on va pas utiliser les protocoles télécom, mais directement on va mettre de l'IP partout, les gens vont nous regarder comme des extraterrestres, sauf qu'on va utiliser des technologies bon marché, efficaces, et qui en fait, au bout, sont moins en panne que les technologies professionnelles.
Si ce sujet a éveillé votre curiosité, je ne peux que vous conseiller une autre vidéo où on découvre que le monde dépend d'un langage informatique vieux de 60 ans que plus personne ne connaît. Peut-être que certains auront deviné lequel, en tout cas c'était dans cette vidéo.